Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico
et à ma gauche Manu.
Et devenez un collab sur les dessins animés en tout genre.
Bonjour et bienvenue, chers animés fans, sur ce nouveau podcast lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de Battle Angel Alita, mais nous allons faire plus que ça car nous allons parler de l'extraordinaire univers de Kishiro Yukito, le grand créateur de Gum. Et pour cela, pour m'accompagner dans mes péripéties, j'ai toujours avec moi mon acolyte préféré, que dis-je, mon séide préféré, Jujubafi. Comment vas-tu, Juju?
Bonjour tout le monde, ça va impeccable. Ça va. Bon.
Tu es prêt à nous parler un petit peu du film?
Oui.
N'est-ce pas, dans un premier temps? On va juste faire un résumé du film, hein, bien entendu.
Oui.
Rapidement. Je te laisse faire ou...
Oui, si tu veux.
Je m'en occupe.
Bah, je peux faire si tu veux.
Bah, allez, go.
Donc, le film, donc du coup. Alors, on va... ça se passe sur... donc, on a une cité flottante qui s'appelle Zalem.
Oui.
Dessous se tient une décharge.
C'est ça.
Et en fait, une sous-ville est à côté de ce décharge, en fait. En gros, les riches en haut et les pauvres en bas, quoi. Si on peut résumer
oui,
rapidement.
Oui, c'est un peu ça, oui, oui.
On est dans un monde cybernétique.
Tout à fait. Cyberpunk, ouais.
Cyberpunk, même. Plutôt, ouais.
Allons-y gaiement, ouais.
Du coup, la fameuse gun, dans le film, je sais plus comment il la prénomme.
Comment ça? Bah, Alita.
Oui, c'est Alita, ouais, pardon. Oui, c'est pas
Alita, bête. Voilà.
Mais du coup... donc Alita se retrouve dans ce jeté dans de la ville d'en haut dans la décharge en bas et en fait
c'est ça.
Un professeur c'est Ido c'est ça
ouais elle est retrouvée par Ido
Ido
ouais.
Voilà Ido qui la récupère qui est un cyber mécanicien en fait qui est spécialisé dans le c'est un médecin en fait en gros le médecin de qui s'occupe de soigner quoi de réparer les cyborgs quoi les cyborgs.
Ouais, c'est ça.
Ben, moitié cyborg lui-même. Elle est...
je vais t'aider, c'est un cybernéticien. Ouais.
Voilà, cybernéticien. Merci. Du coup, ben, il la récupère chez lui, il la répare tout ça. Et du coup, ben, elle, bon, par contre, elle se souvient pas de grand-chose.
Oui, oui, ouais, c'est ça.
Et du coup, elle va découvrir le monde d'en bas, quoi, en gros, qui est un peu affreux, quoi.
De Iron City, voilà, qui est renommé, n'est-ce pas?
Et du coup, ben, lui, pour lui, bah, c'est un peu sa fille quoi, qui a tout faire pour qu'elle fasse pas de bêtises, qu'il faut que tu sortes à telle heure, faut pas que tu sortes la nuit, il faut que machin, des trucs comme ça. Mm-hmm. Sauf que bien sûr, elle va désobéir, comme une petite fille normale quoi. Mm-hmm. Et elle va découvrir, elle va tomber, elle va rencontrer un mec, alors je sais plus comment il s'appelle, excuse-moi, dans le film, le petit jeune.
Hugo,
voilà. Hugo qui va du coup. Va l'aider, qui va lui dire ah, bah, viens avec nous, viens machin. Il lui fait un sport à roulette.
Oui.
Et du coup, c'est apparemment un sport vachement réputé. Il y a des pros et tout ça. Donc lui, il le fait en tant qu'amateur. Et du coup, elle veut essayer. En fait, tu joues au basket en gros avec des rollers quoi. Faut piquer la
le
balle.
Motorball. Voilà quoi. Le fameux motorball, ouais.
Et elle va adorer ça. Et elle va commencer à voir qu'elle est assez forte niveau puissance, tout ça. Donc elle va finir par poser plein de questions à son papa adoptif, quoi. Qui lui ment au début et qui puis finalement on découvre que c'est une super guerrière en fait.
C'est ça, tout à fait.
Donc voilà, donc après, je pense que on a résumé vite fait, quoi. Pas trop mal.
Oui, on va peut-être pas en dire, enfin, on va peut-être trop, pas voilà. En dire plus ou parce trop,
après,
voilà,
on
pour
après,
éviter donc. De. Ouais, je pense qu'on va en parler après et puis on va éviter de trop spoiler aussi, donc. Donc, bien entendu, donc Battle Angel Alita, qui a été réalisé par Robert Rodriguez, n'est-ce pas? Et sous, bien entendu, l'égide de James Cameron. Donc, ça faisait très longtemps, justement, que James Cameron voulait adapter, Gum en film live. Voilà qui est fait, n'est-ce pas? Mais justement, le film en lui-même se rapproche pas mal de l'OAV, de la première OAV qui était sortie.
Oui.
À l'époque, il y a même, c'est presque à la scène près des fois.
Oui, ouais.
Il y a justement à la scène près des fois, vraiment le début par exemple de Battle Angel. Comme le début en fait de Gum Loavé est très similaire hein.
Oui.
D'ailleurs
Canyon to Film est quasiment similaire un peu avec des ils ont inversé quelques trucs.
Alors il y a quelques différences quand même
oui, y a des
parce que voilà parce que malgré tout quand même bon James Cameron il connaît aussi le support manga et il y a certaines choses. Alors c'est le défaut que j'ai par rapport au film. C'est qu'ils ont voulu faire, je pense, comme Zack Snyder sur Batman Superman. C'est-à-dire, ils ont voulu mélanger trop d'histoires les unes avec les autres.
C'est ça, oui.
Et de temps en temps, ça se chevauche pas terrible, quoi. Mais sinon, après, moi, comme je dis, Battle Angel Alita, une purge pour les puristes, mais un très bon film pour les casus, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup de, justement, si vous ne connaissez pas l'univers de Gum, l'univers de Kishiro Yukito, c'est une très très bonne introduction justement pour après s'intéresser au support manga, regarder l'OAV même.
Surtout que graphiquement il est magnifique quoi.
Oui le film en lui-même, bon voilà c'est James Cameron, le mec il tient bien la barque et tout ça, niveau effets spéciaux, niveau effets numériques c'est vraiment aux petits oignons quoi, hein. C'est vraiment très très intéressant quoi.
Bah surtout que si vous voulez après vouloir derrière regarder d'abord l'OAV, on avait pour une heure quoi, donc c'est vite vu.
Oui, elle est très très vite vue. À la base d'ailleurs, l'OAV c'était deux épisodes de 20 minutes. Donc,
ouais, c'est ça.
Donc voilà quoi. Donc c'est assez rigolo. Donc justement, comme on en est là, on va parler un petit peu des différences notables qu'il y a entre les différents supports justement. Parce qu'il y en a quelques-unes, en tout cas pour ce qui est du manga et du film justement de Robert Rodriguez. Déjà il y en a plein parce que justement ce qui est dommage quelque part dans le film par rapport au manga c'est qu'il y a des personnages qui sont introduits trop tôt ou trop vite pour ma part, mm-hmm. C'est ce que j'ai trouvé. Par exemple le personnage du serial killer que Ido au tout début du film pourchasse, donc c'est-à-dire Gruiska. Le problème de... Alors déjà, Gruiska, le personnage déjà en lui-même est un patchwork de plein de trucs, quoi. Et c'est là où est un petit peu le problème, c'est qu'il est inspiré justement du méchant de l'OAV.
C'est ça.
Mais en même temps, il a les caractéristiques, à un moment donné, d'ailleurs, alors c'est peut-être un clin d'œil, mais il a justement les caractéristiques du méchant qu'il doit représenter dans le manga, mais... Dans le manga, ce méchant-là s'appelle Makaku et en fait, c'est une espèce d'homme vert. Et à un moment donné, si vous vous rappelez de la scène dans le film où Gruiska, en fait, il a été démantelé par Siren et justement, on voit que son vrai corps, c'est une espèce de vert, là, tu vois.
Ouais.
C'est une espèce de truc. Ben ça vient du manga et ça vient de Makaku, justement. Justement, le méchant dans le manga s'appelle Makaku et non pas Gruiska.
Voilà. Après, il faut préciser que Ido est en fait un chasseur de primes, quoi. Un chasseur de...
Voilà. Donc, Ido, qui est un Hunter Warrior, en plus d'être cybernéticien pour mettre un petit peu du beurre dans les épinards, c'est intéressant parce que, justement, dans le manga, et là, dans le film, alors ils essayent de le faire, mais, justement, ça va trop vite. C'est-à-dire que, vraiment, dans le manga, Gali, elle pense vraiment que c'est Ido qui dessoude les prostituées, tu vois. Pour récupérer les pièces détachées et lui donner à elle.
Alors Gali c'est la fille.
Alors
là,
pardon,
dans le manga on l'appelait Alita, dans l'OAV et le manga c'est Gali. Mais Alita tu pourras l'expliquer.
Alors là aussi on va expliquer rapidement. Voilà. Les Américains ont repris en fait le prénom Alita. Donc le prénom Alita il est crédité parce qu'à un moment donné dans le manga, dans la première série en tout cas, la première saison en manga de Gum. À un moment donné, Gali, si vous voulez, elle va être brainstormée, quoi. Ils vont lui faire un lavage de cerveau. Un méchant va lui faire un lavage de cerveau. J'en dis pas plus, n'est-ce pas? Un méchant va lui faire un lavage de cerveau et va lui faire revivre son passé. Mais il va lui faire revivre le passé au moment où elle vivait avec Ido. Et en fait, il va lui faire un truc vraiment utopique. C'est-à-dire, Ido est toujours vivant, Yugo est toujours vivant.
Ouais,
elle vit dans un monde, tu vois, parfait, tu vois. Et à ce moment-là, ce méchant-là, quand tu lui fais le lavage de cerveau, justement, il la renomme. Et il la renomme Alita.
Voilà.
Donc après, pourquoi, bon, les Américains ont pris ce prénom qui... Enfin, surtout que ce passage-là, il doit durer un chapitre, quoi, tu vois.
Oui. Parce que Gali, déjà, je crois que c'est le nom déjà de sa fille. Il avait une vraie fille.
Justement, ça aussi, c'est une connerie.
Ah, c'est une connerie.
Alors, dans le film, en effet, bon, je trouve ça après, bon, dans le film, c'est pas très grave.
Oui.
Parce que je trouve ça plus logique.
Oui.
Que Ido ait donné le vrai nom de sa fille, tu vois. Enfin, c'est un peu plus dramatique ou un peu plus émotif, tu vois. En fait, dans le manga, c'est pire que ça, c'est que Ido lui a donné le nom de son chat.
D'accord.
C'est-à-dire que c'était le chat qui s'appelait Gali.
Oui, c'est vrai.
Parce que là, justement,
Parce que là, dans le film, il en fait, le corps cybernétique qu'il lui donne à Alita, je crois que c'était le corps qui était réservé à sa fille pour qu'elle a jamais
Alors,
eu, en fait. C'était ça, je crois.
Oui, c'était ça. Alors que normalement, justement, dans le manga, on a vraiment cette espèce d'amalgame où on se dit, putain, mais c'est Ido qui dessoude les prostituées dans la rue, tu vois.
Voilà, oui.
Qui récupère, parce qu'en fait, Alita, on voit que dans le manga, c'est beaucoup plus long, tu vois. Alita, elle a pas son corps de suite.
Voilà, mais dans l'OAV, je crois qu'elle a de suite, y a pas de réparation.
Mais oui, mais dans l'OAV, comme dans le film,
dans l'OAV,
on voit
c'est
pas
des
fous. Ah oui.
Dans le film, elle se fait un peu défoncer, mais alors que dans l'OAV, non.
Ouais. Bon, alors là, c'est intéressant aussi, parce que dans le film, ils ont gardé le passage Alita ou Gali se battait, donc la première confrontation contre Gruwishka ou contre Makaku dans le manga. Et c'est vrai qu'en fait elle morfle parce qu'elle a un corps de merde, tu vois, elle a pas un corps taillé pour le combat, quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant qu'il l'ait gardé, justement. Après, ce qui est marrant, alors ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup ils ont intégré justement la partie, alors une des premières, la première partie, tu vois, c'est-à-dire la partie où on a le serial killer qui tue les prostituées. En fait, ce n'est pas un serial killer, c'est une serial killeuse. Donc dans le film, elle est remplacée par la fameuse actrice, n'est-ce pas, la fameuse actrice Aiza Gonzalez, donc qui joue Nisiana, et en fait Nisiana en soi n'existe pas, en fait. Parce que dans le manga, Nisiana, le personnage en tout cas, ce personnage qui tue des prostituées parce que elle ne supporte pas qu'il y ait des femmes plus belles qu'elle. Mm-hmm. En fait, si tu veux, dans le manga, c'est une mutante dont on ne connaît même pas l'identité.
D'accord.
Et en fait, c'est la première, on va dire, la première chasse de Gali. C'est-à-dire la première chasse de Gali, la première fois que Ido se rend compte que Gali possède un art martial qui ne vient pas de terre.
Oui,
c'est un peu plus, voilà. C'est justement face à cette mutante.
D'accord.
Donc là, dans le film, pour le coup, c'est un peu. Ils ont essayé de tout.
Accélérer la chose.
Voilà, ils ont tout compacté, tu vois, dans un package, tu vois, pour tout nous balancer à la gueule, tu vois. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est plutôt intéressant, tu vois. Après, moi, tu vois, l'autre problème que j'ai par rapport au film, c'est que je trouve que le film, en fait, le film en lui-même te spoil déjà. Si tu veux, il y a des trucs dans le film qu'on voit que moi, je n'ai découvert qu'en lisant Gum Last Order, n'est-ce pas ?
Oui, voilà.
C'est-à-dire la deuxième saison, ils font déjà appel dans le premier film, ils font déjà appel à ce qui va se passer dans la deuxième saison du manga de Gum. Tu t'imagines un peu ?
Bah oui, mais je pense par rapport au niveau budget, c'est que c'est plus cher à faire un film, du coup ils raccourcissent au maximum. Je pense qu'ils feront à la limite une trilogie, pas plus, quoi. Il faut bien qu'ils accélèrent là.
Moi, après, le truc aussi qui m'a dérangé, et d'ailleurs c'est une autre des différences par rapport au manga, il y en a plein après, mais, c'est qu'ils ils introduisent déjà le motorball.
Oui.
Alors que justement, dans ce premier film, c'est vrai qu'on sait que James Cameron, son arc préféré, c'est le motorball. Hein. Y a pas.
Et d'ailleurs, ça n'est pas dans les OAV, je crois, le motorball.
Dans les OAV, on va dire que c'est. Il y a un moment donné, sur des écrans, on voit que le motorball existe, quoi, tu vois.
D'ailleurs, et parce que là,
juste
dans ça, le.
Juste un
dans
clin
le
d'œil.
Motorball, elle se fait appeler. Elle a le numéro 99. Et dans le OAV, le méchant a le numéro 99 sur lui, en fait.
Ouais, oui, aussi, ouais. Et ce qui est un peu dommage, c'est que normalement dans la première partie, ce n'est pas le motorball qui est mis en avant, c'est justement le combat de cyborgs en arène. En fait, ils font combattre des cyborgs géants dans une arène, quoi. Voilà, c'est vraiment juste de l'UFC, tu vois, de cyborgs, en gros, tu vois. Parce qu'en gros, tu comprends que la décharge, il y a deux blocs. un peu à la Japon, tu vois. T'as le bloc Est et t'as le bloc Ouest. Et en fait, dans le bloc Est, le sport qui est à la mode, c'est l'arena, tu vois, donc l'arène de combat cyborg.
Ouais.
Et en fait, dans le bloc Ouest, c'est le motorball.
D'accord.
Et justement, t'as un petit peu ces deux mondes-là qui sont très différents dans l'univers de Gum, justement, de Kishiro Yukito. Mon mangaka préféré, un de mes mangaka préférés, c'est le maître. Sur ce, l'autre... Alors, moi... Tu vois, sachant qu'ils vont faire une suite, vu que je pense le premier film va très bien marcher et tout ça, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que comment il va faire, là c'est là où ils vont être emmerdés, moi, je pense. Parce que comment ils vont faire pour faire le deuxième film, sachant que le deuxième film va vraiment se centrer à fond sur le motorball, quoi. Parce que le problème qu'il y a, c'est que normalement Gali, la fameuse lame de Damas, n'est-ce pas, qu'elle va faucher à Zapan,
oui.
elle ne l'a qu'à partir du moment où elle est motorboleuse, quoi.
Mais alors que là, elle a déjà...
Et c'est pas Zapan qui lui file, tu vois.
Mais oui.
C'est pas Zapan qui lui file, c'est son manager, c'est le malheureux Ed, quoi, qui lui file normalement la lame de Damas. Donc là, ils vont être embêtés, quoi, parce que moi, justement, c'est vraiment, il y a vraiment un point. En plus, il y a vraiment une scène qui est très importante, justement, au moment où Ed va remettre la lame de Damas à Gali, quoi, ou à Alita, quoi. Tu vois.
Ouais, ils feront sauter la scène, c'est tout.
Alors c'est dommage parce que tu vois, pour le coup, le film respecte, dans un certain sens, le film respecte pas mal certaines scènes. Importante, tu vois, dans l'univers de Gum.
Ah oui, parce que moi personnellement, j'avais des OAV, ça fait très très longtemps que je les ai pas vus. En voyant le film, je me suis rappelé des scènes de l'OAV, du coup.
Oui.
Donc, du coup, je me spoilais un peu le film, j'ai dit tiens, il va se passer ça, puisque je me rappelle. Alors moi, j'ai pas trop été déçu. Bah, parce que moi, je connais pas le manga, donc je connais que les OAV, donc c'est assez vite résumé, quoi.
Mais moi, si, je connais le manga, tout! Je connais tout. Moi, après, ce qui est super intéressant, tu vois, c'est que ils t'introduisent déjà les personnages qui vont être ultra intéressants, comme la, par exemple, le mentor de Gali, par exemple, Gelda. Le personnage de Gelda, il pète la classe, quoi. On voit aussi Jasenga. On voit déjà Jasenga, quoi. Il y a Jasenga qui fait une apparition. Tu te dis, waouh, ouais, génial. Ça veut donc dire que dans le second film, il y aura une des confrontations les plus dantesques, tu vois, de Gum, quoi. Parce que alors l'affrontement Gali Alita contre Jasenga, il est tout simplement magnifique, quoi. Avec une conclusion qui est au summum de toutes les confrontations dans l'univers du manga, quoi. Donc pour ça c'est intéressant aussi, tu vois. Alors ah oui, un autre point aussi qui m'a fait un peu tiquer, c'est le personnage de Koyomi. Je pense qu'il y a eu un petit problème au niveau de la temporalité, tu vois. Parce que normalement Koyomi, au moment de Gum, au moment où même Gali rencontre Yugo, hein, c'est tout bête.
Mais...
C'est pas la copine de Yugo, hein. C'est un bébé Koyomi, hein, à cette époque-là, tu vois, c'est juste un bébé, quoi, tu vois. Et là, comme par hasard, la Koyomi, elle est déjà ado, elle est pote avec Yugo, sachant que techniquement, elle est la fille, enfin adoptive, du bar justement du Kansas. C'est-à-dire le fameux bar des Hunter Warriors.
Voilà, où tout le monde se réunit.
Voilà, où Gali va mettre une raclée mémorable à tous ces connards. ça y est, dans les deux, dans tous les supports. Ça, c'est très très bien vu, ça. C'est très important, d'ailleurs, cette petite scène-là. Elle est vraiment couillonne, mais machin. Après, pareil, un autre personnage qui est introduit trop tôt et qui n'a pas le bon nom. Alors ça, j'ai pas compris non plus pourquoi. C'est le fameux MacTig, le mec avec les chiens cybernétiques.
Ah oui, ouais.
Qui normalement ne s'appelle pas MacTig, il s'appelle Murdoch. Donc ils auraient pu garder Murdoch, mais bon, enfin bon.
Ouais.
Ce personnage-là, justement, il est introduit un petit peu trop tôt.
Bah après, ils en parlent pas beaucoup dans le film. On le voit, mais pas longtemps quand même.
Ouais, mais bon, il a quand même une...
Il a la classe.
Là, j'avoue que oui, il pète bien, mais le problème... Si, il a de l'importance dans le sens où c'est lui qui va sauver Gally dans les égouts, quoi.
Oui, il la sauve, mais après, il en raconte pas, on le voit pas après, trop après, quoi.
On le voit pas.
Pour après, bien, pour
ah bah de toute manière, oui, il va revenir, hein. Ça c'est sûr et certain, il va revenir. Hein. Il a, on va dire, une feud avec Zapan, hein, donc il va revenir, c'est sûr. Voilà, c'est un peu problématique par rapport à tout ça. Mais bon, après, voilà, c'est on dirait les quelques défauts du film, quoi, par rapport à un trop plein, je dirais, de connexion, d'entrecroisement entre les différents supports. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais essayer de détailler un petit peu, quoi.
Bah après, beaucoup, quand même beaucoup de gens connaissent Gun, je pense, déjà de base. Donc je pense qu'il y a des trucs. C'est un manga quand même bien connu dans les années 80. 90,
oh, ouais, dans les années 90, quoi. J'allais dire.
C'était quand même. Les OAV, moi je. Ouais, puis maintenant, c'est sûr que maintenant. Tu regardes les OAV, ils ont un peu vieux, c'est sûr. Mais bon.
Ouais.
C'est pas de l'âge, les.
Ah non, ça c'est sûr, hein. C'est de la bonne animation comme on l'aime.
Voilà.
La bonne animation fait avec le pouce, quoi. Ah, c'est beau. C'était l'époque encore où les mecs ils se cassaient le cul sur les cellulos, quoi. Bon, enfin bon. Sur ce, est-ce que tu veux nous dire 2-3 trucs sur justement les OAV? Parce qu'on va on parle un petit peu de ces OAV là, de Gum. Parce que.
Bah, dans les OAV ça suit pas mal, mais en fait après ils ont inversé certains trucs. Enfin, dans le film c'est surtout le. Comment dire, le méchant c'est le Black. Alors, je sais plus son nom. Moi,
ouais, Vector.
Vector, ouais.
Je dis deux mots sur Vector.
Vas-y, dis deux mots sur
Vector. Parce que je ne comprends pas pourquoi dans l'OAV et dans le film, du coup, bah, vu qu'ils se sont un peu calés sur l'OAV, pourquoi dans le film de Rodriguez, ils font mourir Vector.
Ouais, bah, spoil un peu, on dit, hein, spoil. Ouais, c'est vrai. Je sais pas.
Bah oui, mais.
Parce que dans le film, là, c'est beaucoup. Vector.
Oui, Vector, ouais.
Un peu le méchant, et en fait, avec Vector, t'as l'ancienne femme de Ido.
Mm-hmm.
Et en fait, dans l'OAV, c'est plus la femme de Ido qui est la plus la méchante, et lui, Vector plutôt en retrait, quoi.
Voilà, oui, c'est pas
elle, ouais, c'est plutôt elle, quand même, elle est un peu comme Ido d'ailleurs, c'est une pro pareil.
Oui.
Et là, dans le film, elle est plutôt. On la voit plutôt pas trop, quoi. Sa femme, elle est plus pour une gentille, quoi, on va dire. Alors que là, dans le revers, c'est elle plutôt qui se bat quand ils se battent. Quand Gally se bat contre d'autres robots, c'est un peu la confrontation. On dirait des mecs qui ont construit leur robot qui font ah, on va voir qui c'est le meilleur des deux, quoi. C'est un peu ça, quoi.
Dans l'OAV. Oui, ouais. Ah oui, parce que le méchant, alors le méchant a un autre nom d'ailleurs dans l'OAV. Parce que là, dans le film, c'est Gruwishka.
Voilà, oui.
Dans le manga, que moi j'adore, c'est Makaku. Et dans l'OAV. C'est Goryushika.
Voilà. Bon.
Ouais. Ouais.
Et du coup, la fin, du coup, la mort de Vector, en fait, si tu veux, dans AV, c'est le Ido qui s'en occupe. Mm. Et dans le film, c'est Gally, en fait. Enfin, Gally, Alita, pardon.
Ouais,
qui s'occupe de buter, de se venger, quoi. Donc, juste inverser ça. Après, je trouve que les persos se ressemblent pas trop mal, pour Ido et Alita, quoi. Parce qu'ils ont bien réussi le casting niveau ressemblance.
Ouais, moi de toute manière, alors là pour le coup, oui. Alors ça, c'est une des qualités quand même du film.
Elle fait peut-être dans l'OAV, dire que Gally est peut-être plus mature que dans niveau de la tête.
Ça, c'est pas grave. Ça,
oui, c'est pas grave, mais voilà, mais c'est peut-être mieux dans le film, ça fait plus gamine, tu vois.
Ouais. Ah non, mais personnellement, c'est pas grave parce que de toute manière, Gally, elle évolue. Elle est de plus en plus femme. Même dans le manga, au cours des arcs, plus tu avances au niveau des arcs et plus elle fait femme, en fait.
Voilà, mais je trouve que les deux acteurs principaux, je trouve qu'ils sont bien trouvés.
Ah ben Christopher Waltz. Alors là, je dois avouer, le casting est excellent pour incarner Dyson Ido, quoi. GG à l'équipe de casting d'avoir choisi Christopher Waltz.
Il fait bien le rôle, en plus.
Magnifique. Ah oui, il est magnifique. Moi, j'adore Jennifer Connelly. C'est une de mes actrices préférées. Que je trouve qui a été sous-employée aussi, là, dans le rôle de Siren, la femme de Ido.
Il y a que la, bah, la mère, du coup, fait la femme. L'ancienne femme d'Ido, qui est brune dans le film et blonde dans la OAV.
Ouais, mais ça, bon, ça, c'est un détail.
C'est juste les couleurs, quoi.
Ouais, c'est pas important dans le
oui,
sens
voilà,
où...
Ouais, bah,
après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, par exemple, dans le manga... Bon, attention, je peux spoiler à tout moment. dans le manga, on a, si tu veux, tous les gens qui viennent de Zalem, comme Ido ou comme Siren, on a l'impression, en effet, parce que nous, bien entendu, avant de voir le... Même dans le manga, en fait, avant de voir vraiment ce qui était Zalem, donc je vais pas vous dire ce qu'il y a dans Zalem, mais avant de voir ce qu'il y a dans Zalem, comme on rencontre Ido, comme on rencontre Destinova, comme dans l'OAV, on voit Siren, qui elle aussi vient de Zalem, et en fait, ces trois personnages-là sont blonds.
Oui.
Donc t'as vraiment l'impression
oui,
que tu te dis,
là-bas,
oh
oui.
Putain, mais imagine Zalem, c'est dirigé par des putains de néo-nazis et les mecs sont tous blonds aux yeux bleus.
Bah vas-y, c'est ça. Tu mais Ido viennent là-bas aussi, la dame aussi, ils se sont fait dégager.
Alors, attention, spoil.
Oui, on l'a pas dit tout à l'heure.
Les habitants de Zalem sont multiraces. Voilà.
Ouais, oui.
Ne montez pas sur vos grands chevaux.
Mais du coup, bah, dans le film, on apprend que les trois, justement, sont de là-haut, en fait, qui ont été dégagés. Quoi.
Oui, oui, tout à fait.
Et qu'en fait, Hugo, dans le film, Hugo, justement, son rêve, c'est d'aller là-haut, lui.
Et oui, justement, voilà.
C'est pour ça qu'il fait du fric max pour essayer d'aller là-haut. Et voilà. Après, on dira pas la fin du film.
Tout tourne autour de Zalem.
Voilà, mais bah oui. Qu'est-ce qu'il y a là-haut?
Eh oui. Est-ce que c'est mieux là-haut?
Oui, voilà.
C'est pas dit. C'est là.
Ben, on sait déjà que là-haut, il y a quelqu'un qui contrôle, en tout cas.
Alors oui, alors ça aussi, c'est peut-être une des conneries du film, mais bon. Techniquement, alors moi,
ben, c'est
ça
un peu lui le vrai méchant, quoi. Il en parle.
Moi, ouais.
On le voit jamais.
Moi, techniquement, c'est ça que j'ai pas compris. C'est par rapport au personnage de Destinova. Parce que, Destinova, même dans le manga, à aucun moment donné, il est capable de hacker.
C'est ça, ouais.
De hacker les gens comme il fait, en fait.
Voilà, oui. En fait, il prend le contrôle des gens.
Ouais. Et techniquement, au moment où on est là, par rapport à Gum ou par rapport à Alita Battle Angel, Destinova est à la décharge. Hein. Il n'est pas sur Zalem encore. Hein.
Mais
c'est vrai. Alors, bon, attention, spoil. C'est vrai qu'à un moment donné, il va monter à Zalem. Mais là, pour le moment, au moment du film et au moment où tout se passe de la confrontation de Gali avec Ruwishka ou avec Makaku dans le manga, Destinova est à la décharge.
Mais oui, alors que là, il est là-haut, et en fait, c'est dans le film, le pigeon, c'est Vector, quoi. En fait, il se met toujours dans Vector pour parler.
Voilà, oui,
c'est
tout
un peu
à fait,
le pantin voilà, qui obéit aux ordres. Donc...
Alors que techniquement, Vector, il ne peut pas le hacker, vu que Vector est humain. Même...
Bah oui, c'est ce que je me disais, ouais, il est pas...
Et oui.
Mais là, ils l'ont pas fait dans le film, il est pas à moitié un peu robot.
Non, non. Enfin, non, il n'y a pas de. Non, il n'a pas de. Il n'y a rien qui prouve que il ait même boosté son cerveau. Donc.
Voilà, en gros, le Vector est. C'est un... Pour résumer, c'est le boss de la décharge de la ville d'en bas, si tu veux, en gros.
Alors, en fait, c'est
la mafia du bas, quoi. Et en gros,
alors,
en fait,
oui. Alors, pour expliquer. Alors, attends. Pour expliquer le poste de Vector, ce n'est pas compliqué. C'est comme tu le dis. En fait, c'est le boss du marché noir.
Voilà, c'est ça.
Et en même temps, en fait, il sert d'intermédiaire. En fait, il sert d'intermédiaire humain entre les bornes et justement la décharge.
Voilà. Et après, aussi dans le film, il est aussi celui qui s'occupe du motorball, apparemment aussi dans le film.
Ouais, alors que.
Ça,
alors
pas
qu'il
que
s'en
soit...
occupe pas du tout.
Voilà.
Mais dans le manga, il s'en occupe.
Pas. C'est lui qui s'occupe de vol.
Oui.
Bon, il gère le truc, quoi.
Dans le manga, que... en voilà. Gros, il gère les usines. En gros.
Ouais, voilà.
En gros, si tu veux, il sert de. Il sert de faire valoir humain, et c'est lui qui gère un petit peu les usines, les problèmes qu'il peut y avoir et tout ça.
D'accord. Donc voilà, bon, je pense qu'on a pas mal résumé.
Bon, attends, alors, attendez, quand même, on va dire quand même les OAV, machin, pourquoi il faut aussi voir les OAV. Alors déjà, il faut voir les OAV parce que elles ont énormément servi ou inspiré pour le film, n'est-ce pas, Battle Angel Alita.
Oui.
Mais en plus, ces OAV, à l'époque... Justement, elles avaient été faites par deux grands noms de l'animation, dont l'un est le célèbre Rintaro, n'est-ce pas ? Que vous connaissez sûrement si vous avez vu le magnifique film Metropolis.
Ah oui. Ouais, c'était bien la mode de l'époque, ça. Cyberpunk.
Ouais, bah oui, d'ailleurs. Ah, bah d'ailleurs, oui, justement, on peut faire un amalgame. On peut faire une liaison avec Gum, parce que Metropolis parle un petit peu et a en tout cas les mêmes thématiques. Mm. C'est-à-dire les riches en haut, les pauvres
oui,
en bas.
Ça, ouais. Mm.
Et justement, le problème justement de ces deux sociétés voilà, qui vont venir se faire la révolution voilà, pour changer la donne. Et justement, l'autre grand monsieur qui a travaillé sur ces OAV n'est autre que Yuki Nobuteru, le monsieur qui a fait les chroniques de Lodos. Voilà. Rien que ça. Donc, GG à eux. Parce qu'ils nous ont fait vraiment de très très belles OAV. On sent justement la patte de ces deux grands hommes. Voilà, et ça c'est beau. Donc à l'époque, ils avaient fait deux OAV 30 minutes. Donc du coup, ce qui fait un film de 60 minutes.
Et puis je crois, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'elles sont sur Netflix, ces deux OAV, mais je suis pas sûr. Je crois les avoir vues sur Netflix.
Ah bon? Ah, je. Bah tiens, écoute.
Bah, j'ai dit peut-être des conneries. Hein.
écoute.
On verra, mais pas très important.
Ok.
Donc voilà.
Donc, est-ce que tu as. Alors voilà, justement, on va ouvrir un nouveau petit segment dans nos podcasts, car justement, notre cher ami Juju Baffi, quand il va voir un petit film comme ça, adore me poser des questions, toutes sortes de questions sur ce qu'il n'a pas compris, ou là où il a eu du mal à...
Et mais là, si je pose des questions, je vais spoiler à mort.
À interpréter, alors voilà, à interpréter justement le film, ou tiens, quel est ce personnage, pourquoi ce personnage intervient là, machin. Donc, si vous ne voulez pas écouter les questions, car ça risque de spoiler.
Ah bah, ça risque
beaucoup, arrêter. Donc, vous pouvez arrêter le podcast à ce moment-là. Par contre, si vous voulez tout savoir, là, c'est le moment, les gars. Parce que là, vous avez un expert avec vous, là. Donc, allez, vas-y, go. Première question, parce que tu m'as dit que t'en avais quelques-unes.
Oui, alors, faut que je me rappelle ces questions.
Justement, je t'avais dit de les préparer.
Non, j'en avais une, déjà. C'était concernant la mère, parce que dans le film, ils la font pas crever, ils la font, en gros, Vector, la démantèle.
Ouais, tout à fait.
Il garde que les organes, donc les yeux, le cerveau.
Ah oui, bah il a, oui. Il en fait des pièces détachées, quoi.
Voilà.
Oui.
Mais après, quand Alita vient se venger, qui tue avec Vector, elle récupère on sait pas si elle a récupéré la valise ou pas, ou c'est les deux fourmis vivantes, qu'est-ce qu'elle en a fait, quoi. Parce qu'elle part, mais on n'entend plus parler de la mère, quoi, je veux dire.
Ah non, mais de toute manière, elle est morte, hein. Enfin, il peut plus rien pour elle, la pauvre.
Mais vu qu'il la garde dans les trucs, je m'attendais que.
Alors le problème, alors très très bonne question. Alors surtout si vous êtes resté, là ça va spoiler par contre, donc barrez-vous. Très très bonne question parce que c'est quelque part c'est un problème dans l'OAV et dans le film que Vector fasse ça en fait, parce qu'à la base il ne le fait pas à Psyrene. À la base, si tu veux, il montre que il envoie un corps humain démanteler à Zalem tous les mois.
D'accord.
Mais en fait, il a un corps lambda. Le problème, alors il y a deux choses qui se posent en faisant ça sur Siren, c'est que Siren est un membre de Zalem, est une ancienne citoyenne de Zalem. Et le problème, c'est que si Vector fait justement la dissection de Siren pour envoyer à Zalem, il va découvrir le secret de Zalem, en gros.
Mais après il l'envoie pas dans le film, il le garde. Pour moi, il l'avait pas envoyé puisqu'il est mort, il n'avait pas été envoyé.
Alors, de toute manière, Psyren, elle est morte.
Bon, elle est morte, hein. D'accord.
Bah oui, elle est morte, là, j'allais dire, on peut plus rien pour elle, on peut pas la réattacher. Hein, donc.
Non, mais pas la réattacher, mais je pensais que comme c'était dans le liquide, on a l'impression qu'elle était encore vivante, mais que le cerveau, parce qu'il conserve cerveau, les yeux, donc
Ils vont peut-être la foutre dans un robot. Alors, je vais expliquer, alors je vais dire le secret de Zalem. Les habitants de Zalem n'ont pas de cerveau.
D'accord.
C'est ça le secret de Zalem que Destinova va révéler aux habitants de Zalem, justement. C'est que les habitants de Zalem n'ont pas de cerveau. Ils ont juste une puce, en gros. Et en fait, ils ont une puce électronique qui remplace leur cerveau.
D'accord.
Et donc, le truc, c'est que à ce moment-là, tu découvres que les habitants de Zalem...
Bah, c'est des vrais robots, quoi, en gros.
Bah, en fait, oui. Les habitants de Zalem sont l'inverse des habitants de la décharge. C'est-à-dire que là où les habitants de la décharge ont leur cerveau et ont des corps cybernétisés, les habitants de Zalem, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont un cerveau robot, mais ils ont un corps humain physique.
D'accord, ok. Ouais, donc,
donc, le, donc tu vois, c'est le problème. C'est le problème de faire ça. C'est que là, il y a une connerie, tu vois. Il y a une connerie de le fait que Vector récupère Siren pour en faire des pièces détachées. Parce qu'en effet, quand il envoie un corps humain dans le manga à Zalem, il y a le cerveau, il y a tout, quoi.
Oui.
Parce que justement, c'est très important qu'il y ait le cerveau en plus. Bon, je dirais pas pourquoi, parce que je dirais pas ce qu'ils font. Parce que le truc, c'est que les habitants de Zalem, ils font une espèce de rite initiatique. C'est-à-dire qu'à leur majorité, on leur enlève le cerveau pour le remplacer par une puce.
D'accord.
Mais justement, ils se servent des cerveaux récoltés comme ça. Donc je dirais pas pourquoi faire, n'est-ce pas ? Histoire de ne pas trop vous spoiler. Mais voilà, donc il faut le savoir.
Mais après,
autre question, allez
bah,
go.
Je sais plus si je l'avais posé, je sais plus, bon, une question, mais dans le film, son, le nouveau corps qu'elle a, le dernier, donc son, le corps qu'elle avait déjà au tout début.
Oui, intéressant ça.
Donc il raconte finalement la vraie histoire, que comme quoi elle c'était une guerrière, une super guerrière, tout ça. Donc elle a un corps qui est vachement. Et du coup, elle peut le modeler un peu comme elle veut. Enfin, modeler, pas modeler, mais je veux dire, elle peut le mettre à la forme qu'elle veut dans.
Oui.
Mal et en fait, dans le film, tu vois qu'elle a ce truc se régénère quand même. Elle se fait toucher.
Oui.
Est-ce que c'est vrai ?
Alors, oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est très intéressant de la part de Roberto.
Non, parce que dans le film, Ido, il est toujours en train de la protéger. Alors, parce qu'il dit, fais gaffe, si t'as qu'un seul corps, j'en avais pas d'autres.
Alors, alors,
se régénère, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, j'explique. Alors, le corps du Berserker, si tu veux, c'est vrai que c'est une merveille de technologie. C'est le corps du Berserker, il a une technologie qui est certes ancienne, mais qui est plus avancée que ce que la décharge connaît, en gros. D'accord ? Le corps du Berserker, déjà, il vient de Mars. Donc, il vient pas de la planète Terre, il vient de Mars. Mm-hmm. Avec toutes les, justement, capacités technologiques de Mars.
Oui, ça, on le voit dans le film, parce qu'elle retrouve le vaisseau.
Oui, tout à fait. Et on va découvrir, justement, que Mars... Enfin, moi, par exemple, là, je suis en train de lire Mars Chronicle. Et en fait, on découvre que sur Mars, il y a, en plus, il y a une espèce de guilde. De guilde en gros qui terraforme Mars. Et en fait, cette guilde là, elle est ultra avancée technologiquement, quoi. Et en fait, le corps du Berserker, justement, possède la technologie, la nanotechnologie, en gros. Donc, si tu veux, le corps du Berserker, c'est un corps cybernétique. Et en plus, il a, justement, des nanorobots à l'intérieur de ce corps, qui sont capables de régénérer, de réparer, de récupérer de l'énergie. Et en fait, alors, le truc, c'est que dans le film, le corps du Berserker a ses capacités upgradées. Parce que techniquement, Gally, la première fois qu'elle a le corps du Berserker, justement, Ido fait en sorte de ne pas le mettre à 100%. Donc, si tu veux, elle a juste un corps de cyborg normal. En fait, c'est Destinova, en récupérant le corps du Berserker, et en fait, en le donnant à Zapan, donc attention, gros spoil,
oui.
En le donnant à Zapan, il va le foutre à 100% de ses capacités, quoi.
D'accord.
Et en fait, on va se rendre compte que le corps du Berserker, à 100% de ses capacités, il est capable de se régénérer, et tout le bordel, là, de générer du plasma, comme elle le fait, Gally, Gally Alita dans le film. Elle est capable déjà de générer du plasma. Après, je dis des conneries, mais dans le manga aussi, elle est capable de générer du plasma. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on a l'impression que c'est grâce à son art martial, donc le Panzerkunst, qu'elle arrive à générer ses arcs de plasma. Mais bon, après, après, de toute manière, plus tard, dans Last Order, elle a à peu près le même corps que le Berserker, sauf qu'il s'appelle l'Imaginos, d'accord ? Et en fait, avec l'Imaginos, elle est capable de faire exactement ce qu'elle fait dans le film. C'est-à-dire générer elle-même son plasma, quoi. Grâce à son corps, quoi. Et en fait, on va découvrir que c'est même encore pire que ça, tu vois, le corps du Berserker. Parce que, grâce à sa nanotechnologie, il est capable, en plus, d'incorporer tous les corps de cyborg qu'il va toucher. Si tu veux, ça va devenir un vampire technologique, quoi. C'est un peu à la Rougine Z, tu vois. C'est-à-dire qu'il a une espèce, il a deux tentacules. Il y a une tentacule qui pompe de l'énergie et l'autre tentacule, elle va bouffer des cyborgs et elle va venir ramener les pièces qu'elle a récupérées de cyborgs pour venir le grossir, quoi, tu vois. Il peut même augmenter sa masse, tu vois.
D'accord.
à la fin, le Zapan, pour te donner un ordre d'idée, le Zapan, il a le corps du Berserker normal, tu vois, c'est un cyborg à taille humaine. Et à la fin, pour te dire à quel point il aura absorbé, à grâce justement à la nanotechnologie du corps du Berserker, de la matière, donc de la matière cybernétique, il ressemble à la reine des aliens, tu vois.
D'accord.
Voilà, c'est pour te donner pour te donner un ordre d'idée au niveau du potentiel du corps du Berserker, quoi. C'est le corps du Berserker, c'est une des pires armes que Mars a créé. Hein.
Mais,
surtout si tu le débloques à 100%. Ce que fera Destinova, et même Destinova, il va le regretter, quoi, tu vois.
D'accord. Non, bah, puis, pas d'autres questions.
T'as pas d'autres questions? Oh, je suis déçu. Sur ce, je pense qu'il est temps.
Si vous avez des questions, posez-les sur le forum, il vous répondra.
Oh non, salaud. Tu me donnes du boulot, là.
Eh ben,
bon, sur ce, nous allons vous laisser, chers animés fans, n'est-ce pas? Si vous avez aimé l'atmosphère étrange et violente d'Orange Mécanique, si vous avez aimé les ambiances cyberpunk que vous avez pu trouver dans Blade Runner avec Harrison Ford, si vous avez aimé des films comme Metropolis avec des sociétés très puissantes qui briment des sociétés beaucoup plus pauvres qu'elles, alors Gum ou Battle Angel Alita est fait pour vous et on vous conseille vivement d'aller voir tout ça.
Ah oui, vous voyez, n'est-ce pas?
Sur ce, mon cher Jujubafi, oui. Nous allons laisser à leurs préoccupations nos chers animés fans. Je vais aussi te laisser vaquer
les préoccupations. Voilà. Et pensez à aller liker notre chaîne YouTube et
oui, lâchez les pouces bleus, envoyez des cloches et tout le bordel, envoyez des cœurs. Sur ce, nous vous laissons pour un prochain podcast sur le blog lesdessinsanimés.fr. Ciao, ciao!
Ciao tout le monde!